Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Crise sociopolitique. Le président de la République appelle au dialogue. Le mouvement du 5 juin des forces patriotiques appelle durcit le ton. Une manifestation est annoncée pour vendredi prochain. Alors, dans ce même contexte, le nouveau gouvernement est attendu. Quelles analyses de l'évolution de cette situation dans le pays? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Dr Siriki Bakayoko, politologue enseignant à l'université de Bamako, Dr Fodie Tanjigora, sociologue, chef du département sociologie à l'université de Bamako, et docteur Alaï Nyangali, juriste, professeur à l'université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Alors, aujourd'hui, il y a le mouvement du 5 juin qui appelle à la démission du président de la République. Il y a même un titre honorifique qui est proposé au président de la République s'il désirait rester au pouvoir. Au même moment, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose aujourd'hui d'aller encore au dialogue. Quelle évolution de la situation, docteur Siriki Bagayogo?
Bien, bonjour, monsieur Touré. Merci de m'avoir invité sur le plateau de votre télévision pour donner mon point de vue sur la situation sociale, la situation politique, la situation institutionnelle de notre pays. Je pense que aujourd'hui, la situation que vit notre pays interpelle tout bon Malien. La situation que vit notre pays aujourd'hui inquiète tout bon Malien. Notre pays traverse, à mon avis, une période très difficile, une période difficile qui se manifeste par l'apparition, n'est-ce pas, donc, d'une multitude, n'est-ce pas, donc, de crises. Elle a commencé par la crise sécuritaire en 2012 et qui a évolué, n'est-ce pas, donc, de manière assez inquiétante. Et elle a évolué pour déboucher sur une crise politique. Et aujourd'hui, nous vivons, n'est-ce pas, une crise institutionnelle et une crise sociale. Donc, c'est vraiment beaucoup de crises à la fois pour un pays, n'est-ce pas, comme le nôtre. Donc, cette situation ne peut qu'inquiéter, en tout cas, tout bon Malien. Donc, je me réjouis aujourd'hui d'être aujourd'hui sur vos plateaux pour échanger avec mes collègues.
Voilà. Depuis le 5 juin, Dr Fodie Tanjigora, avez-vous l'impression que les choses sont en train de s'améliorer ou est-ce que les choses se détériorent davantage par rapport à cette crise sociopolitique?
Bien, merci Monsieur Touré. En fait, je pense que la situation évolue un peu en dents de scie. Souvent, on a espoir que ça va s'améliorer, puis deux jours après, on se rend compte qu'on retourne à la caisse de départ. En fait, il y a une gestion qui n'est pas très linéaire de cette crise. Si on regarde, moi je pense que la situation là où nous sommes aujourd'hui, je peux même dire que c'est une poudrière en réalité. Et souvent, depuis le 5 juin, on a vu la démonstration de force et le régime a essayé de jouer sur l'épuisement. Et on a vu que le rassemblement qui a suivi a regroupé davantage de monde. Et donc, ce qui est en train de se passer du côté de l'État, c'est peut-être une gestion en misant sur le temps, le mouvement va s'essouffler. Or, je ne pense pas que cette fois-ci, cette théorie de l'essoufflement puisse marcher. Et ce que je regrette, d'ailleurs, c'est la gestion déléguée tout le temps de la part du chef d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une implication proprement personnelle. C'est-à-dire que tout est délégué à chaque fois, chaque problème sérieux, c'est délégué, comme le haut représentant du centre ou de ceci ou de cela. Donc, il n'y a pas d'implication personnelle, une prise en charge personnelle du dossier. Et cela frustre davantage les manifestants et qui, je rappelle, ont envie même de retourner sur leur revendication de départ, qui est le départ du chef d'État. Donc, il n'y a pas une implication personnelle du président. Et cela frustre davantage. Et je crains, d'ici le vendredi, s'il n'y a pas de compromis, que la situation ne tourne au vinaigre, tout simplement.
Docteur Nyangali, quel est votre point de vue sur l'évolution de la crise sociopolitique?
Okay. Merci, M. Touré. Je m'associe mes prédécesseurs pour saluer les auditeurs de Studio Tamani. Et je pense que c'est une deuxième sur votre plateau, c'est ma deuxième fois. Et donc c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être sur ce plateau afin de me prononcer sur des questions qui intéressent la vie de la nation. Alors, quand on parle de la crise politico-sociale, c'est comme ça que moi je l'appelle parce que tout est parti. L'enlisement de la situation, c'est à partir de la proclamation des résultats des élections législatives, donc les résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle du Mali. Et donc on a constaté des manifestations ça et là dans les régions du Mali, au niveau du district de Bamako, dans les 6 communes du district de Bamako, pratiquement il y a eu des manifestations. Et donc ces manifestants réclamaient d'abord que la Cour constitutionnelle leur restitue leur voix, parce qu'ils pensent que les résultats qui sont sortis des urnes ne sont pas le reflet, donc n'est pas l'exact résultat qui a été pratiquement les résultats, donc les voix qui ont été émises par les électeurs dans les urnes. Donc quand on essaye d'analyser cette crise multidimensionnelle, il faudrait dire que il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et donc l'étouffement de cette crise, il faut un génie vraiment collectif.
Alors, docteur Bagayogo, sur Facebook, il y a Jacob Sissoko qui vous adresse une question. Il dit « Pourquoi Ibeka refuse de démissionner ?» C'est sa question.
J'aurais bien aimé être à la place d'Ibeka pour y répondre. Mais bon, en tant qu'enseignant, je pense quand même que c'est une très bonne question parce que je partage vraiment l'analyse, n'est-ce pas, donc de mes deux prédécesseurs qui disent que, en tout cas, cette crise-là, elle a assez duré, elle a assez duré. Et surtout, il y a comme un manque, n'est-ce pas, donc d'intérêt de la part, n'est-ce pas, donc, disons, de la plus haute autorité, celle à laquelle les doléances sont adressées, en tout cas de prendre à bras le corps le problème. Voilà. Je pense que les deux premières grandes manifestations qui ont eu lieu, celle du 5 juillet, juin. Le 5 juin et celle, n'est-ce pas, donc du 19 juin, on a eu comme l'impression que mais bien avant cela, n'est-ce pas, il y a d'abord déjà la crise scolaire, n'est-ce pas, donc qui avait duré pratiquement, n'est-ce pas, donc 6 à 7 mois. On a comme l'impression que, en tout cas, donc disons les plus hautes autorités, n'est-ce pas, de ces pays-là. Voilà.
Voulez-vous dire qu'elles sont en train de négliger la situation?
Voilà, donc néglige quand même un peu, disons, cette crise-là. Et il a fallu, en tout cas, donc, les deux grandes marches. Il a fallu, disons, les deux grandes marches pour que le président de la République sorte, n'est-ce pas, donc, pour s'exprimer. Et quand il est sorti pour s'exprimer, sa première adresse à la nation, je vais dire, a été quand même en deçà, n'est-ce pas, de tes attentes. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, à le dire. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'hommes politiques qui sont exprimés, qui ont dit vraiment que, en tout cas, par rapport à ce qui est exprimé, ils auraient attendu quand même, disons, des propositions assez concrètes, assez précises pour, en tout cas, répondre, n'est-ce pas, donc, aux manifestants. Maintenant, pourquoi ils refusent? Je ne saurais le dire comme ça, mais je pense quand même que peut-être que Ibeka, c'est peut-être lié un peu, n'est-ce pas, donc à sa personne, parce que vraiment on constate que chaque fois, n'est-ce pas, donc, qu'il y a des problèmes cruciaux, des problèmes urgents de la nation se sont posés, vraiment il a tardé, en tout cas, à intervenir, il a tardé à réagir et surtout il a tardé à donner les bonnes réponses, les réponses idoines. En tout cas, donc, je pense quand même qu'effectivement, je suis d'accord, n'est-ce pas, donc, avec le docteur, que Ibeka tarde, n'est-ce pas, donc, à réagir. Et voilà, pourquoi il refuse, je ne sais pas moi, peut-être il se croit, n'est-ce pas, légitime. Il se croit légitime, il se dit que bon, les Maliens, n'est-ce pas, donc, l'ont élu en 2013, il a été réélu, n'est-ce pas, en 2018. Il a, disons, une légitimité, une légalité qui lui permet aujourd'hui, n'est-ce pas, donc, de diriger le pays et de ne pas peut-être céder
je sais pas, à la pression de la rue, je vais dire. Voilà.
D'accord. Alors, docteur Fodié Tandjigoura, si docteur Bagayogo annonce que le président de la République tarde à résoudre certains des problèmes, faut-il s'attendre par rapport à cette crise, cette demande du M5 au même scénario que la crise scolaire, 6 mois, 7 mois après, pour trouver une solution?
Non, cette crise ne peut pas durer, c'est sûr et certain. Parce que cette crise est dans sa phase d'ébullition. La crise scolaire était une crise de secteur et tout le monde ne se reconnaît pas là-dessus. Mais aujourd'hui, moi je le dis, ce n'est pas MK, ce n'est pas Mamoudou Diko qui mobilise. Les gens sont mobilisés, peut-être qu'ils sont frustrés quelque part, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui s'est dit correspond à ce que les gens vivent. C'est peut-être ça. Maintenant, est-ce qu'on va laisser cette crise se perdurer et s'essouffler? C'est ce qui est dangereux parce que, comme on le dit, peut-être que et c'est une carte maîtresse que le chef d'État a, qu'il compte jouer à la dernière minute. Mais ce qui est sûr, c'est que la gestion qu'on est en train de faire aujourd'hui de la crise, nous marchons sur des braises. Et qu'il aurait pu saisir le fait qu'ils aient renoncé à son départ et le fait de former un gouvernement. Il aurait dû saisir cette occasion personnellement et s'impliquer dans la crise. Là où c'est un peu compliqué, c'est parce qu'il ne s'est pas impliqué personnellement et que le discours qu'il tient, n'est-ce pas, c'est un discours de hauteur. Il est sur ses cimes, donc il est regardé.
Il y a Ibn Moussa Ibrahima même qui déclare que le président démontre qu'il n'a pas la volonté réelle d'apaiser le climat actuel car il n'a entrepris, selon lui, aucune action vers l'apaisement.
Oui, c'est-à-dire que bon, il a fait une action, c'est-à-dire qu'il les, pour lui, il les a renvoyés à la majorité, c'est-à-dire qu'il les a reçus, c'est pour lui, c'est des actions. Mais maintenant, il n'y a eu concrètement absolument rien du tout. Et parce que, comme l'a dit mon collègue, peut-être que Ibeka pense que bon, il a été élu, c'est sûr, il a gagné les élections, mais il est quelque part incompréhensible que l'on puisse enregistrer tous ces individus dans la rue à quelques 2 ans d'élection, n'est-ce pas, qu'on puisse mobiliser autant d'individus qui manifestent, qui sont en colère. Il faut s'interroger sur la sincérité des scrutins en ce moment-là. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive à tel niveau. Moi, je pense qu'on a encore de la chance. D'ici le vendredi, on a encore de la chance parce qu'on est un pays de dialogue, on est un pays d'entente. Il faut qu'on dépasse tous ces carcans qui nous lient, la Cour constitutionnelle, la législation. Je pense que l'accord cadre qui est issu de la transition, ça n'existait pas dans la Constitution. On a dû inventer quelque chose pour résoudre la crise. Je pense qu'il faut laisser tout ça à côté, résoudre cette crise et rapidement. Après, bon, on reviendra à...
Laisser tout ça, c'est-à-dire...
Non, c'est-à-dire qu'on pense que le chef... On peut pas... Il y a eu beaucoup de débats ici, que le chef d'État, élu démocratiquement, on ne peut pas le démettre de ses fonctions, il ne peut pas non plus être honorifique, parce que ça n'existe nulle part. Un premier ministre de plein pouvoir, ça sent un peu les périodes de coup d'État et tout, pour donner plein pouvoir, la transition, on n'est pas non plus dans la transition. Et les dispositions juridiques, c'est contraire aux dispositions juridiques, tout simplement. Mais j'ai dit qu'il faut accepter certains sacrifices et sortir de la crise. Après les dispositions juridiques, on en reviendra. Mais sinon, on ne s'en sortira jamais avec les textes juridiques.
Docteur Niangali, faut-il rester avec les textes juridiques ou est-ce qu'il faut faire des sacrifices comme propose Docteur Tandjigoura?
Alors, moi, je dirais qu'il faut rester d'abord avec les textes juridiques. Il faut le préserver, mais aussi tout en cherchant une porte de sortie avec des négociations politiques. Alors, moi, juridiquement, du point de vue du droit, je considère que la démission n'est pas à l'ordre du jour parce que dans la Constitution, nous sommes dans un état de droit, un état de droit dans lequel on présume quand même que les gouvernants et les gouvernés sont soumis à la même règle de droit, à la même Constitution. Et donc, quand une partie de la population demande peut-être que le départ, la démission du président de la République, je me dirais qu'ils ont quelle légitimité, ils ont quel mandat de la part de la population pour demander le départ. Parce que nous sommes dans un état de droit et la République ignore ce qu'on appelle les coups d'État. Vous savez, autant que moi, que le coup d'État est un crime imprescriptible contre l'humanité. Et quand on demande le départ du président de la République, parce qu'il y a ça et là des crises, j'allais dire socio-politiques. Et donc, le fait de demander le départ du président de la République, cela constitue à mes yeux une insulte à l'endroit du peuple malien. Mmh. Pourquoi une insulte? Parce que le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans. Il a la légitimité. Mmh. Et c'est la population, c'est le peuple, c'est son électorat qui lui a accordé cette légitimité. Et donc, je me vois mal de s'inscrire, de m'inscrire dans cette dynamique-là pour demander le départ du président de la République. Et donc, si on veut sanctionner le président de la République, il y a des sanctions démocratiques. Les sanctions démocratiques, c'est celles qui consistent à sanctionner le président de la République par la voie des urnes. Mmh. Vous avez...
Donc attendre les prochaines élections.
Attendre les prochaines élections et pour les sanctionner et démocratiquement par la voie des urnes. Sinon, à mon avis, pour le moment, demander le départ du président de la République, la démission du président de la République, et cela constitue vraiment une insulte à l'endroit du peuple malien et que force reste et demeure toujours à la loi parce que tous les droits, tous les devoirs du peuple malien, c'est inscrit dans la Constitution.
D'accord. Mais M5 avait revu sa proposition, sa demande de départ du président de la République. Il avait proposé que le président garde un titre honorifique, même si cette position semble être revue encore. Donc, selon vous, le président aurait-il dû accepter cette position honorifique?
À mon avis, il n'y a pas de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Nous sommes dans une démocratie et que la démocratie marche sur des principes. Il y a des règles, il y a des valeurs démocratiques. Alors, quand vous demandez au président de la République de s'en aller, de quitter le pouvoir, et après, vous avez vu qu'il y a eu des négociations qu'on avait entamées. Donc, suite à ces négociations, il y a des lueurs d'espoir. Donc, vous demandez... aujourd'hui, vous vous inscrivez dans une autre dynamique. Vous dites que nous ne demandons plus le départ du président de la République, mais nous voulons que ses pouvoirs soient réduits. Mais je voudrais aussi rappeler quelque chose ici. Nous sommes dans un état de droit et que la nature du régime politique du Mali, c'est le régime semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel, vous savez bien la définition telle que elle a été théorisée par Maurice Duverger, la définition du régime politique, c'est à partir des caractéristiques. Donc, le régime semi-présidentiel, d'abord, quand on essaye de voir la définition donnée par le professeur Maurice Duverger, il est parti du fait que le droit constitutionnel identifie deux grands types de régimes politiques. Le régime politique, le premier régime politique, c'est ce qu'il appelait donc, le régime parlementaire, c'est l'aîné des régimes politiques. C'est ce régime-là qui est en vigueur en Grande-Bretagne et donc en Angleterre, où il y a ce qu'on appelle la démocratie du Premier ministre. La reine, elle règne mais elle ne gouverne pas. Donc à côté de ce régime politique qu'on a appelé l'aîné des régimes politiques, il y a eu un deuxième type de régime politique qu'on appelle le régime présidentiel. C'est celui-là qui est pratiquement mis en œuvre et qui est en vigueur aux États-Unis d'Amérique. Le régime présidentiel. Donc voilà les deux types de régimes qui ont pu émerger dès les premières heures donc, de la démocratie. Et à côté de ces deux types de régimes politiques, il y a eu ce qu'on appelle la mutation des régimes politiques. Et donc avec cette mutation, il y a eu des régimes, les variantes des régimes parlementaires, les variantes des régimes présidentiels qui ont fait leur apparition. Et donc le régime politique que pratique le Mali, c'est le régime semi-présidentiel, effectivement un régime qui emprunte des éléments au régime parlementaire, mais aussi des éléments au régime présidentiel. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Dominique Rousseau l'appelle un régime bâtard, parce qu'il n'a pas de paternité, il n'a pas de père. Mmh. Est-ce que c'est le régime parlementaire qui est le père du régime semi-présidentiel ou du régime,
Mali, on a un régime
semi-présidentialiste
mmh. ou encore mais pour c'est... que les auditeurs et téléspectateurs qui ne sont pas tous des juristes puissent mieux comprendre,
oui.
Est-ce que le régime semi-présidentiel signifie qu'on ne peut toucher à la place du président de la République qu'à travers les urnes?
Absolument, parce que nous sommes dans un état de droit et nous sommes dans une république. On parle de la République du Mali. Comme je le disais dès l'entame de mes propos, que la République ignore le coup d'État. Et si vous faites, il y a des sanctions. Donc
pas possible également pas possible. De donner au président titres, un titre honorifique.
Titre honorifique, nous, on n'a jamais vu cette pratique dans aucun pays ou dans aucune démocratie dans le monde,
d'accord,
à travers
docteur,
le monde.
Tanjigura veut réagir non, avant que je ne donne la parole.
Non, c'est-à-dire, bon, ça me fait un peu sourire, mon collègue, parce qu'il sait très bien que la sanction à travers les urnes est totalement irréalisable dans nos contextes africains. C'est pourquoi je dis, le jeu démocratique n'est pas sincère. Vous parlez de l'existence formelle. Ça se doit comme ça. Mais sauf que le jeu démocratique n'est pas sincère. Il n'est pas sincère à l'intérieur. Vous voulez que les citoyens sanctionnent par des votes. Encore une fois de plus, il faut que ces votes soient pris en compte, il faut que les voix soient prises en compte. La démocratie ne se résume pas à son existence institutionnelle.
En traduction, êtes-vous en train de dire que les textes ne sont pas non. respectés par les autorités elles-mêmes?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que dire qu'il y a les organes électoraux, il y a les citoyens, il y a les législatures, il y a des partis politiques, il y a des observateurs. Donc, il y a la démocratie. En fait, la pratique démocratique, elle est beaucoup plus importante. Je pense que le jeu est faussé à l'intérieur. Les citoyens, comment donner une gifle électorale à un candidat si leurs voix sont confisquées? Donc c'est vraiment le vrai problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut peut-être temporairement, parce qu'il n'y a pas de solution juridique à cette crise. Je le dis, il n'y a pas de solution juridique. Sinon, il y a les textes. Normalement, il n'y a même pas de discussion, en principe. Mais s'il y a des discussions, c'est qu'il y a une autre dimension du problème. Et si nous nous focalisons sur les textes juridiques, ben on va faire des formules incantatoires, ça ne va pas marcher. Voilà.
Monsieur Babayogo, quel est votre point de vue sur cette question? Faut-il rester avec les textes juridiques ou faut-il en sortir?
Oui, je pense que je vais vraiment emboîter le pas à mon collègue Tanjugura pour dire que la crise que nous connaissons ici, elle est multidimensionnelle. Elle est aujourd'hui institutionnelle. Elle est aujourd'hui sociale. Je pense que le débat soulevé par mon collègue Nyangali met en débat, n'est-ce pas, donc, disons, les prescriptions juridiques et les solutions politiques. Voilà. Donc, à mon avis, aujourd'hui, les prescriptions juridiques ne peuvent pas nous aider à sortir de la crise. Or, nous sommes tous aujourd'hui interpellés. Nous voulons tous aujourd'hui que le pays sorte, n'est-ce pas, de cette situation difficile. Donc, à mon avis, vraiment, je pense que il faut vraiment, je pense que peut-être mes collègues juristes donc, vont vraiment, en tout cas, de me donner une gifle. Mais moi, je pense que vraiment ici, il faut mettre actuellement en parenthèse, n'est-ce pas, donc, les prescriptions juridiques, la vision juridique, pour vraiment rentrer, n'est-ce pas, sur un terrain politique. Et en l'occurrence, n'est-ce pas, essayer de résoudre, n'est-ce pas, cette crise-là par, disons, une solution, n'est-ce pas, politique. C'est cette solution politique-là aujourd'hui qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de sortir de cette ornière-là. Sinon, si, n'est-ce pas, donc, nous nous cantonnons, n'est-ce pas, donc, aux prescriptions juridiques, comme l'a dit Tanjugura, n'est-ce pas, il n'y a pas de débat. Mais les prescriptions juridiques-là, mais elles ne sont pas figées. Elles ne demeurent dans aucune nation 200 ans, 300 ans. Non. Hein? Les début 92, n'est-ce pas, nous voulons en tout cas changer la constitution, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, donc la réalité, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, donc la pratique politique, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, donc de donner un sens, n'est-ce pas, donc au presque juridique, mais surtout, n'est-ce pas, donc à la réalité. Moi, je pense que vraiment, il faut une solution politique à cette crise-là.
Par solution politique, entendez-vous que le président accepte, par exemple, ce titre honorifique qui lui est proposé par le M5?
Oui. D'abord, disons, la forme ultime, n'est-ce pas, de cette solution politique-là, elle n'est pas arrêtée d'avance. Voilà. Mais je pense quand même que ce qui est extrêmement important actuellement, c'est que le président de la République, en tout cas, réagisse positivement aux revendications, aux doléances, n'est-ce pas, qui sont posées par le M5 aujourd'hui.
Et positivement à tout ou à certains?
Bon, je vais dire pas à tout de manière absolue, mais quand même à certains. En tout cas, faire en sorte quand même que nous puissions quand même sortir de cette crise-là. Faire en sorte quand même que nous puissions en tout cas avoir des solutions aux problèmes qui sont posés. Voilà. Je pense quand même que disons, les revendications, les doléances qui sont vraiment faites sont vraiment partagées aussi, n'est-ce pas, même par certains ténors, n'est-ce pas, donc du camp présidentiel. Voilà, donc vraiment, donc, à mon avis, les pressions juridiques ne sont pas figées, elles ne sont pas intangibles, elles ne sont pas, n'est-ce pas, dans le courant. Il faut aujourd'hui essayer, n'est-ce pas, d'aller au-delà et de trouver une solution. Maintenant, les réformes institutionnelles qui vont être entreprises, n'est-ce pas, donc après, on pourra faire en sorte que nous puissions en tout cas avoir, n'est-ce pas, donc des règles juridiques qui peuvent mieux prendre en condition ces solutions-là. Voilà.
D'accord. N'est-il pas possible de faire le référendum pour voir ceux qui sont pour ou contre le départ du président ? Demande Bakary Sinayogo. La question vous est adressée, M. Niangali.
Oui. Permettez-moi d'abord de rebondir sur l'idée qui vient d'être développée tout à l'heure. Parce que moi, je tiens beaucoup au texte. Le texte... ont permis quand même de solutionner des problèmes de ce genre dans les pays de la sous-région. Si je prends le cas de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est un décret présidentiel du président, un décret pris par le président Laurent Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara de participer donc à l'élection du président de la République. Et c'est ce qui a permis de mettre un terme à la crise politico-sécuritaire en Côte d'Ivoire.
D'accord. Excusez-moi d'insister pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Docteur Fodier Tandjigoura disait tout de suite que les autorités elles-mêmes ne respectent pas ces textes. Alors pourquoi demander aux populations, si c'est le cas, de respecter ces textes ? Est-ce qu'il n'y a pas de poids, de mesure ?
Bon, de poids, de mesure, je ne pense pas que ce soit cela, parce que les textes... vous avez suivi lors d'une interview accordée par un des... membre du M5 qui disait que les textes sont bons au Mali, que les textes sont bons, ils sont sans reproche.
Est-ce que vous pensez que les textes sont bons, qu'ils sont sans reproche?
Les textes sont bons, mais certains textes restent à améliorer. On doit améliorer la qualité de certains textes parce que nous devons consolider notre démocratie et nous ne devons pas nous inscrire dans la déconsolidation démocratique.
Justement, faut-il pas les oublier dans ce cas pour le moment, résoudre cette question et ensuite les améliorer, comme vous le dites?
Améliorer ces textes, il faudrait envisager ce qu'on appelle des réformes. Il faut des réformes multidimensionnelles. Donc, à l'image de la crise.
D'accord. La question de Sinayogo, est-ce qu'il est possible de faire un référendum pour voir ceux qui sont pour ou contre le départ du président de la République ? Est-ce possible ?
Il est possible d'organiser le référendum parce qu'en vertu de l'article, en vertu des dispositions constitutionnelles, que le président, l'article 41 de la Constitution malienne du 25 février 1992, chaque fois qu'il y a problème, le président de la République peut mettre en application l'article 41 de la Constitution, c'est-à-dire proposer des mesures qui intéressent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, des questions qui intéressent la vie de la nation. Donc le président de la République peut proposer ce qu'on appelle le référendum constitutionnel. Donc les citoyens sont appelés à se prononcer par un oui ou par un non. Et donc cette mesure va permettre au peuple de se prononcer soit sur le départ du président de la République, soit sur le départ, parce que quand vous lisez le mémorandum du M5, il demandait non seulement le départ du président de la République, première institution de la République du Mali, il demandait le départ de la Cour constitutionnelle, qui est l'organe régulateur des institutions, et demandait aussi le départ de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes dans quelle démocratie?
Justement, je vais poser la question à Dr. Fodier Tandjigoura. Il y a Bakary Sinayogo qui demande encore, qui dit, si Ibeka avait dissous la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, est-ce qu'on en serait là?
Oui, bon, techniquement, je ne suis pas juriste, mais le seul problème à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on reprend les élections, il faut les faire valider par la Cour constitutionnelle. Et s'il n'y a pas de Cour, ça pose un problème. Mais même le président ne s'est pas prononcé sur la dissolution de l'Assemblée. Ça a été proposé. Je n'ai pas vu qu'en retour, qu'il y a eu des propositions. Ce qu'on dit maintenant, en tout cas du côté de M5, c'est un remembrement, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle et une dissolution de l'Assemblée. avec le renoncement à la démission du président, je pense que c'est ce qui a été dit. Et comme je l'ai dit ici, en fait, il faut aller vite. J'ai comme l'impression que les textes ne sont pas au même rythme que la crise. On parle de crise, de péril immédiat, on parle de... la situation, elle est urgente. Alors, si vous parlez de référendum, on va au référendum quand est-ce qu'il faut l'organiser, quand est-ce qu'il faut avoir les résultats, et en attendant, qu'est-ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai dit, cette fois-ci, il faut vraiment que nous inventions quelque chose pour prendre en charge cette crise rapidement. Et le tout juridique, et c'est inopérant, tout simplement. Ça devait, normalement, les textes qui régissent le fonctionnement des institutions, que ce soit l'Assemblée ou la Cour constitutionnelle, ces textes sont clairs. Pour des élections partielles, il faut un décès, un cas de décès. Mais le président peut dissoudre. Les textes disent ça. Mais il ne s'est pas prononcé sur la dissolution. Donc, pour moi, il y a une gestion très lente de la crise. Peut-être on mise sur l'essoufflement du mouvement. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Peut-être que le mouvement va s'essouffler ou peut-être pas. Dans ce cas, ce qui va se passer, personne ne peut deviner. Il faut peut-être attendre au fur et à mesure. Et c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. Pour moi, il faut rapidement faire des concessions et des propositions de la part de l'État.
C'est-à-dire réinventer quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être réinventé et qui pourrait réinventer cela? Parce que selon le M5, le président de la République aujourd'hui n'est pas capable, ce sont leurs mots, de diriger, de gouverner ce pays.
Bon, ça c'est un peu l'incapacité du président, ça c'est autre chose. Je pense que c'est les juristes savent ça, c'est consigné dans la Constitution, ça. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau d'incapacité. C'est des présomptions d'incapacité en réalité. Il faut qu'il soit complètement malade ou immobilité totale. Donc ces incapacités sont définies. Maintenant, c'est la façon de gérer le pays. On pense qu'il est incapable de gérer correctement la crise ou toutes les formes de crise qu'on vit maintenant. Mais sa démission, c'est le fait que de crise en crise, aucune situation n'a été résolue et les engagements qui avaient été prononcés depuis longtemps n'ont pas été réalisés. Et il se base sur un certain nombre de preuves qu'on peut observer pour dire que le chef d'État n'est pas là pour gérer les situations. Et aussi, il y a des frustrations tout au long, n'est-ce pas, dans beaucoup de couches. C'était le cas des enseignants qui a été résolu. On s'est dit donc qu'ils avaient les moyens de résoudre ça. Vous voyez, il a fallu qu'on en arrive jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a tout un tas de frustrations qui se sont accumulées. C'est pourquoi je disais à l'entame de ce débat que ce n'est pas DICO, ce n'est pas le M5, c'est des accumulations de frustrations. Il fait que les gens s'accordent et sortent ensemble. En d'autres temps, il aurait été difficile de faire sortir les gens. Donc, il faut vraiment considérer ça. Et quand j'ai inventé quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'on peut temporairement mettre à côté et puis résoudre, soit créer un cadre. On peut toujours, les juristes, le droit est très plastique, c'est très élastique. On peut trouver une formule politico-juridique pour rapidement prendre en charge. Mais ceux qui disent le tout juridique, eh bien, ça ne marchera pas, le tout juridique.
Tout à fait. Et je voudrais juste réagir par rapport à cette position, cette thèse qui vient d'être défendue par mon éminent collègue. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs hypothèses de sortie de crise. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est donc l'hypothèse de la voie juridique, telle que ça a été proposé par la CEDEAO, c'est-à-dire organiser ce qu'on appelle le départ, la démission négociée des membres de l'Assemblée nationale et permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. On va basculer vers une demi-transition. Deuxième hypothèse, c'est de permettre au président de la République, à travers l'article 50, dissoudre l'Assemblée nationale et mettre en place ce qu'on appelle une assemblée constituante. Je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Troisième donc hypothèse, c'est de permettre aussi au président de la République d'élaborer une charte de transition, écarter ou mettre, comme l'a dit mon collègue, mettre entre parenthèses les dispositions constitutionnelles. On va écarter, comme cela a été le cas au Burkina Faso lors de la crise, on a écarté la constitution et on a élaboré ce qu'on appelle une charte de transition qui va permettre au gouvernement d'organiser les choses pour qu'il y ait révision de la constitution. Donc la révision de la constitution va permettre ce qu'on appelle le retour à la stabilité constitutionnelle et politique. Et donc, là, on va établir une nouvelle constitution, aller vers une quatrième république. Là, c'est la solution juridique. Politiquement, aujourd'hui, la CEDEAO, à travers sa rencontre, a effectivement proposé à ce que l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu beaucoup de contestations, et les cas, les hypothèses d'élection législative partielle, c'est en cas de décès ou en cas d'invalidité permanente. Et donc, et ces cas, nous ne sommes pas en face de ces hypothèses-là. Demander peut-être la démission négociée des zones où il y a eu des contestations, notamment à travers les 6 communes du district de Bamako, des localités, des circonscriptions électorales dans lesquelles il y a eu des manifestations, telles que dans la circonscription électorale de Sikasso, à Bougouni ou encore dans la circonscription électorale de Kati, permettre à ces députés-là d'organiser leur départ négocié. La négociation, on va peut-être leur proposer, par exemple, c'est une hypothèse, leur proposer tout ce qu'ils vont, c'est-à-dire la moitié de ce qu'un parlementaire va gagner au cours d'une législature. Et si ce n'est pas pour être indiscret, il y a l'autre jour quelqu'un qui me disait que le député nouvellement élu, donc pour toute la législature, il va gagner 600 millions. C'est énorme. Et donc, on peut
donc
politiquement
leur donner 300 millions. À peu
300
près.
Millions, leur demander vraiment de. Voilà, ils peuvent aussi se représenter. Mmh. Et cette fois-ci, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la certification internationale. Et, de passage, je vais peut-être reprendre les propos tenus par un des experts du symposium sur la réforme institutionnelle, et qui disait ceci, que en République du Mali, que la Cour constitutionnelle est l'institution la plus décriée en République du Mali. C'est l'institution-là, parce que au lieu que la Cour soit un organe qui va pacifier le jeu démocratique, elle va devenir un organe qui va certainement perturber le fonctionnement normal des institutions. Aujourd'hui, si la Cour, par exemple...
Est-ce le cas en ce moment?
Bon, je ne dirais pas que c'est le cas, mais je dirais quand même que la Cour constitutionnelle doit juger, doit peser beaucoup dans la balance pour que les jeux démocratiques soient de plus en plus pacifiques. Nous ne sommes pas... aux élections durant les partis uniques où il n'y a pas de candidats, où il n'y a pas d'élections disputées.
D'accord, aujourd'hui, on va donner la parole à Dr Bagayogo. Merci. Dr Bagayogo, dans ce contexte, dans cette situation, quel type de gouvernement pourrait aider à résoudre cette situation? Puisque jusque-là, la mise en place du gouvernement est également attendue.
Oui, bon. Quel type de gouvernement serait idéal pour le moment, à mon avis? Je pense que pour le moment, le mouvement M5, qui est le protagoniste principal, n'a pas encore réagi, n'a pas encore donné une suite favorable quant à la formation, n'est-ce pas, d'un gouvernement d'union nationale. Donc, à mon avis, pour le moment, cette formation d'union, elle n'est pas à l'ordre du jour.
Ils ont demandé à ce que le président garde un titre honorifique.
Voilà, honorifique. Oui. Voilà. Maintenant, donc, au cas où les négociations maintenant, donc, avancerait et que le mouvement, n'est-ce pas, MCN ou que, n'est-ce pas, donc le camp présidentiel ou la plus haute institution du pays ferait, en tout cas, donc, disons, des propositions qui puissent aller dans le sens, n'est-ce pas, donc, des doléances émises par donc, le M5. Je pense que on fera trouver quand même, n'est-ce pas, une solution pour vraiment former ce gouvernement-là. Mais la formation de ce gouvernement-là doit faire partie d'un ensemble, d'un paquet, n'est-ce pas, donc, de solutions. Voilà, ce n'est pas le gouvernement d'une de la seule qui va résoudre la crise. Il faut peut-être penser, n'est-ce pas, donc peut-être à la solution, n'est-ce pas, donc transition politique, n'est-ce pas, dans laquelle voilà, on va réfléchir qui va être, n'est-ce pas, le chef de l'exécutif, quel organe va désormais jouer, n'est-ce pas, le rôle de l'Assemblée nationale, comment est-ce que la Cour constitutionnelle doit être remembrée et comment est-ce que...
Faut-il changer de Premier ministre ou faut-il garder le même Premier ministre?
En tout cas, ce que je constate, c'est que le mouvement, il existe une crise existentielle entre le M5 et disons, est la plus haute autorité, n'est-ce pas, donc la plus haute institution, n'est-ce pas, de cet État-là. Ça, c'est vraiment indéniable, ça, c'est vraiment clair. Donc, à partir du moment, n'est-ce pas, où cette crise, n'est-ce pas, donc, de confiance existe, il faut travailler d'abord à ce que cette crise de confiance soit d'abord résolue. Voilà, maintenant, si elle est résolue, on trouvera certainement, n'est-ce pas, donc, le moyen de faire en sorte que, en tout cas, donc, les deux camps puissent faire des propositions qui puissent être acceptable pour eux afin quand même donc d'avancer.
D'accord, docteur Tandigoura, quel type de gouvernement pourrait satisfaire aujourd'hui la population malienne, pas seulement les manifestants à travers le mouvement du 5 juin, mais les Maliens de façon globale?
Moi, je pense que c'est plutôt un gouvernement proprement technocrate qui seront recrutés sur base des compétences. Qui vont gérer des affaires courantes, qui ne seront pas du tout candidats à aucune forme d'élection, qui sont des purs techniciens. Et j'entends parler de gouvernement d'union nationale, c'est totalement inopérant. On en a vu par le passé plein, c'est une sorte de partage de gâteaux à nouveau. Ça ne sert absolument à rien du tout de faire toute cette lutte pour le cas du M5 et MK et de parvenir à un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, proposer aux gens des MK ou bien à d'autres individus affiliés de prendre des postes ministériels pour gérer la transition.
Est-ce que le M5 va accepter de ne pas avoir ce qu'on peut appeler, entre guillemets, leur part du gâteau?
Je n'ai pas entendu qu'ils ont dit qu'ils n'entreront pas dans le gouvernement. Peut-être que ça m'est passé dessus, mais je n'ai pas entendu. Mais gouvernement d'union nationale, union nationale avec qui? Si ce n'est pas avec MK et tout ça, je me demande ça se fera avec qui. Si y a union nationale, c'est forcément les contestataires qui en feront partie. Et s'ils en font partie, moi je crois que cette crise, ça tient à deux choses. C'est-à-dire que si on parvient à dissoudre l'Assemblée et à remembrer la Cour constitutionnelle, je pense que c'est fini pour 80% la crise, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour de la part du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de réponse. C'est muet. Ça ne parle pas. Donc, c'est un peu ça. Et on joue sur l'essoufflement et la situation, de toute façon, ça va se décanter seul, comme ça l'a été pour beaucoup de crises. Donc, c'est peut-être, ça se fera peut-être ainsi ou peut-être pas, mais je dis que c'est une poudrière. Il faut vite aller à la solution avant que ça ne tourne mal.
Et Namouri Keïta demande, en cas de changement suite à cette révolution, cela donnerait-il pas immédiatement, ce sont ces termes, une certaine crédibilité aux initiateurs qui se considéreront comme victorieux ou même voire intouchables?
Bon, c'est une hypothèse qu'il avance, mais vous savez que tous les leaders qui sont dans ce mouvement ne font pas non plus l'unanimité. En réalité, ce qui les réunit, c'est la tête du président, c'est tout. Beaucoup de gens sont dans ce mouvement-là, des anciens ministres qui ont été des chantres du régime, qui du jour au lendemain changent de camp. Et c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas sûr que ceux qui auront gagné la lutte seront forcément des bons dirigeants. Ils ont été aux affaires pour la plupart du temps, mais on n'a pas vu de preuves probantes, n'est-ce pas, qu'ils aient pu résoudre des situations difficiles. Mais je pense que ce qui est urgent aujourd'hui, c'est que tous ces acteurs politiques qui sont réunis sont au courant de beaucoup de situations au Mali. Et les problèmes qui sont apposés dans les documents sont des problèmes réels. Même la majorité présidentielle a reconnu que ce sont des problèmes réels. Donc il faut aller à des solutions. Et rapidement, et le président, je le répète, doit prendre en charge lui-même personnellement le problème et non déléguer ça chaque fois qu'il y a des problèmes sérieux, déléguer soit à des hauts représentants, soit à des majorités. Il faut qu'il s'implique personnellement.
Docteur Alaï Niangali, aujourd'hui, quel type de gouvernement? Est-ce que des technocrates? Est-ce un gouvernement d'union nationale? Quelle est votre proposition?
Au vu de la crise, moi je pense que le gouvernement d'union nationale reste toujours possible dans la mesure où les revendications du M5 sont des revendications légitimes et des revendications sincères.
Donc il faut qu'ils aient leur part du gâteau.
Absolument, parce que...
Donc êtes-vous en train de dire que le Mali, la gouvernance, est un gâteau qu'il faut partager entre
différents acteurs? Non, ce n'est pas un partage de gâteau, mais c'est à partir des constats qui ont été pratiquement faits par un certain nombre de couches, des couches de la société civile. Et vous savez bien, dans les membres de M5, nous avons des anciens ministres du gouvernement, des anciens ministres du président Ibeka. Nous avons des ministres, des anciens ministres depuis le temps du président Amadou Toumani Touré. Et nous avons aussi des leaders religieux qui sont d'ailleurs la cheville ouvrière de ce mouvement-là. Ce n'est pas un partage de gâteaux, mais c'est une façon de redistribuer les pouvoirs de façon équitable.
D'accord. Donc, le temps nous fait défaut. Merci à nos trois invités. Ce qu'on va retenir, c'est que les trois sont unanimes sur une chose. Il faudrait que les autorités du pays trouvent une solution à cette crise urgemment, rapidement. Le thème du Grand Dialogue, quelles analyses de l'évolution de la crise sociopolitique dans le pays, nos invités, Dr Siriki Bakayoko, politologue enseignant à l'université de Bamako, Dr Fodié Tandjigoura, sociologue, chef du département sociologie à l'université de Bamako, et Dr Alaï Nyangali, juriste, professeur à l'université de Bamako. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Mamadou Ouattara, je suis Mohamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.